Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, une des cantatrices les plus célèbres qui ait jamais existé.
Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir.
Bianca Castafiore. Évidemment, pour assister à l'une de ses représentations, il faut ouvrir un album de Tintin. La diva croise régulièrement la route du reporter pendant ses aventures, parfois pour l'aider, le plus souvent pour casser les oreilles du capitaine Haddock. On l'entend chanter son fameux air aux quatre coins du monde, elle s'installe même à Moulinsart, et quand on y réfléchit, c'est assez absurde de trouver une chanteuse lyrique dans un récit d'aventure aux côtés de mafieux, de savants et de justiciers, surtout que c'est la seule femme de la série. Pourquoi est-ce qu'elle est là? D'où vient-elle? Qui est vraiment la Castafiore? Si vous pensez que vous allez avoir les oreilles cassées, préparez-vous à découvrir la vérité sur le rossignol milanais. La Castafiore, on a l'impression qu'elle est partout, elle est en réalité absente de plus de la moitié des albums. On ne la croise physiquement que dans 7 des 24 aventures du héros à la houppe, grâce à la radio, on l'entend dans 2 autres, et enfin, elle est parodiée par le capitaine Haddock quand il se sent enfin débarrassé d'elle, c'est-à-dire lorsqu'il se prépare à aller dans l'espace. La première rencontre avec le rossignol milanais, c'est sur une petite route d'un pays imaginaire des Balkans, la Sildavie. Nous sommes en 1939, c'est le Sceptre d'Ottokar, 8e album de Tintin. Le jeune héros se retrouve au cœur d'un complot géopolitique parce qu'il a voulu rendre à un scientifique la sacoche qu'il avait oubliée sur un banc. Poursuivi par des méchants, il est recueilli dans la voiture de la cantatrice. Une forte carrure, des bagues à tous les doigts, elle est accompagnée de son pianiste Wagner. Et spontanément, elle propose à notre héros un récital privé.
Comment vous n'êtes pas au courant? Je chante ce soir au Cursaal de Clos. Vous plairait-il d'assister au spectacle?
Oh, c'est très gentil à vous, madame, mais j'ai des choses importantes à régler.
Oh, vraiment?
Je ne peux malheureusement pas vous expliquer, mais...
Oh, cela ne fait rien, mon garçon, je comprends parfaitement. Vous plairait-il de m'entendre maintenant? Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Est-ce toi, Margarita? Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Réponds, réponds, réponds vite. Vous plairait-il de m'entendre chanter autre chose? Avant que nous arrivions, bien sûr.
Ce sera avec plaisir, madame, mais je descends ici. Merci encore.
Tintin est désorienté, en sueur. Dans l'album, il remarque, rassuré, que les vitres sont solides. Cette voix, elle touche aussi les animaux. Milou est aussi désorienté que son maître. Lapins, hérissons et cerfs déguerpissent au plus vite. Et Tintin préfère terminer son trajet à pied plutôt que de subir plus longtemps le talent de la chanteuse. Quelques années après, elle se produit sur les planches d'un music-hall. Le capitaine Haddock fait remarquer qu'elle lui rappelle un cyclone qui s'est un jour abattu sur son bateau. Son souffle ébouriffe le marin, Milou se met à hurler à la mort. La Castafiore, elle surgit quand on l'attend le moins. Elle est partout, comme le sparadrap, impossible de s'en débarrasser. Lorsqu'on allume la radio au Kemed, pays fictif du Golfe Arabique inventé pour Au Pays de l'Or Noir, sur le toit du monde au Tibet, et en plein milieu de l'océan, sur qui tombent nos héros naufragés?
Vive la Madonna! Oh, c'est bien Tintin et son ami! Oh, le patron pêcheur d'Ardoc! L'âge doit ouvrir ses bras aux enfants de l'aventure.
La Castafiore.
Je vous souhaite la bienvenue à bord du Sherazade.
Elle est ici.
Encore ici, mamie.
Sauf qu'il peut, on retourne sur le radeau.
Ce cher Tintin est mon brave Arok.
Arok, enroll, madame Castafiole.
On la retrouve même dans la jungle sud-américaine où elle affiche un flegme particulièrement impressionnant alors qu'elle est jugée par un tribunal militaire qui veut la condamner à la prison à vie. Dans sa cellule, elle ne se laisse pas abattre.
C'est la dernière fois que je vous le dis. Mes pâtes, je les veux cuites à point. Al dente, comme on dit chez nous, en Italie.
Enfin, elle va casser les pieds de nos héros jusque chez eux quand elle débarque à Moulinsart dans les bijoux de la Castafiore.
Vous ne devinerez jamais de qui est cette lettre.
Je donne ma langue au chat.
Bianca Castafiore.
Ce cher rossignol milanais.
Elle arrive aujourd'hui au château.
La Castafiore, ici. Aujourd'hui? Oh, c'est une plaisanterie!
Non, non, pas du tout, capitaine. Elle dit qu'elle vient se reposer ici quelques jours. Tenez, regardez, lisez vous-même.
Blablabla. J'arriverai le 17 à Moulins, ça plus à bord. Catastrophe, cataclysme, calamité.
Et il y a un gentil petit post-scriptum pour vous.
Mille amitiés au capitaine Bartok Miltonnerre. Ad hoc. Madame Castafiole. Ad hoc. Nestor,
monsieur.
Nestor, préparez tout de suite mes bagages. Il faut que je sois parti dans une heure.
Bien, monsieur.
Ces apparitions toujours inattendues sont parfois salvatrices, comme dans l'affaire Tournesol, où la chanteuse n'hésite pas à abriter nos héros dans son vestiaire alors qu'ils sont recherchés par des militaires.
Hein?
Encore? Qui est-ce?
Signora, c'est le colonel Spence qui désire vous présenter ses hommages.
Mais comment donc? Faites-le entrer. Mes admirateurs, ils m'adorent.
Un instant, madame. Ce colonel...
Eh bien quoi?
Il ne faut pas qu'il nous trouve ici.
Sans elle, la situation aurait pu dégénérer. La Castafiore est donc un personnage indispensable au récit par l'assistance qu'elle apporte au héros et parce qu'elle est comique, mais ça c'est souvent à son détriment. Comment est-elle née? Partons d'une citation de son créateur tirée d'un long entretien publié en 1975, Tintin et moi, dans lequel il répond au spécialiste de la bande dessinée Numa Sadoul. Il confie aimer beaucoup la musique, il regrette de ne pas avoir eu d'éducation musicale et il reconnaît qu'en musique classique, il préfère Satie et Debussy à l'opéra. « L'opéra m'ennuie, dit-il. Je l'avoue à ma grande honte. Ou alors il me fait rire, ce qui est encore pire. J'ai l'œil et l'esprit trop critiques. Je vois la trop grosse dame derrière la chanteuse, même si elle a une voix admirable, le bel âtre derrière le ténor, le carton-pâte des décors, le fer-blanc des cuirasses. Mais je n'ai jamais vu d'opéra moderne. Sans doute s'est-on débarrassé de toute cette pacotille, de toute cette ferblanterie. Il y a sans doute actuellement plus d'exigences, mais la race des Castafiore n'est certainement pas éteinte. » Hergé n'arrive pas à y croire. Il n'arrive pas à se laisser porter par le spectacle. Avec la Castafiore, il dessine ce qu'il ressent, une grosse dame, une caricature. Et c'est là qu'on arrive au scoop, à la vérité sur la Castafiore. Reprenons la citation. Il le dit lui-même. Cette caricature, elle a sans doute une voix admirable. Je l'affirme aujourd'hui, la Castafiore chante bien. Ce sont Tintin, Milou et le capitaine Haddock qui, comme Hergé, leur créateur, n'arrivent pas à apprécier cette voix d'or. Car après tout, dans les albums, on apprend qu'elle vient de la fameuse Scala de Milan et qu'elle se produit dans le monde entier. Ses concerts sont appréciés, retransmis à la radio, et les journaux parlent de son talent, citent ses tournées internationales et même une représentation inoubliable où elle a obtenu 15 rappels. Contrairement à ce que tout le monde pense, la Castafiore n'est donc pas une lointaine descendante du barde Assurance Tourisque. Pourquoi est-ce qu'Hergé n'arrive pas à se laisser porter par l'opéra? Plongeons dans sa biographie. Comme pour les autres personnages, Georges Rémy s'est sans doute inspiré de sa famille pour créer la Castafiore. Georges Rémy, c'est le vrai nom d'Hergé, il n'a eu qu'à inverser ses initiales pour trouver son nom d'auteur. Les deux Dupont viendraient de son père et de son oncle qui étaient frères jumeaux. Le langage fleuri du capitaine Haddock serait lui inspiré entre autres par Paul Rémy, le frère militaire du dessinateur. Et la Castafiore, eh bien, la Castafiore, ça serait un peu sa tante Nini. Elle organisait des concerts familiaux dans lesquels elle s'accompagnait au piano. Elle régalait la famille Rémy des puissantes inflexions de sa voix perçante, nous dit le site officiel de Tintin, qui sans doute pratique l'euphémisme. Des concerts imposés qui ont profondément marqué le jeune Hergé et influencé négativement sa vision de la musique. Sa tante, donc, mais aussi quelqu'un de plus proche de lui, et là c'est étonnant, c'est Hergé lui-même qui le dit dans la version documentaire des entretiens avec Numa Sadoul. Écoutez bien.
Dans le vouloir, c'est un peu mon épouse qui s'attaque là-dedans. Je le vois ici.
Oui, vous avez bien entendu, il cite son épouse. Pour être exact, sa première femme, Germaine, il l'épouse à 25 ans en 1932, mais il finit par la trouver envahissante et trop protectrice, des traits qui se retrouvent dans la Castafiore. Ça, c'est pour la famille. Mais la Castafiore a aussi été inspirée par de vraies chanteuses. Certains veulent y voir Florence Foster Jenkins, riche new-yorkaise persuadée de son talent alors qu'elle était incapable de chanter juste, mais on l'a vu dans Tintin, le talent de la Castafiore est réel. C'est donc plutôt du côté des grandes cantatrices de l'époque qu'il faut regarder, Renata Tebaldi et surtout Maria Callas. La Callas et son image de diva, son élégance et sa vie privée qui inspireront Hergé à la fin des années 40. Le souci du détail va très loin. Le fameux yacht de Rastapopoulos, le Sherazade, sur lequel la Castafiore passe du bon temps, eh bien, c'est une copie conforme du Christina, le yacht du richissime armateur grec Aristote Onassis, qui était le grand amour de la Callas. La robe que porte le rossignol milanais sur la couverture des bijoux de la Castafiore semble inspirée d'une robe portée par la Callas. Et dans le parallèle entre les deux artistes, la fiction devance parfois la réalité. En 1963, le professeur Tournesol crée une variété de roses blanches qu'il baptise du nom de la chanteuse Bianca Castafiore, nom qui signifie d'ailleurs en italien « blanche chaste fleur ». La Callas, elle, aura une rose à son nom 2 ans après, en 1965. En 1963, voilà ce qu'elle enregistre. Cela va peut-être vous surprendre, moi en tout cas ça m'a surpris, j'ai longtemps pensé que cette ère des bijoux c'était quelque chose d'inventé sur mesure pour la Castafiore. C'est pourtant écrit noir sur blanc dans un des albums, il s'agit d'un extrait de l'opéra Faust de Gounod. Le mythe de Faust, c'est l'histoire d'un vieux savant qui vend son âme au diable pour séduire la jeune Marguerite. Après Goethe, il inspire une bonne partie des grands compositeurs du 19e siècle, Wagner, Verdi, Schubert, Beethoven, Mendelssohn, Berlioz, Schumann, Liszt et donc Gounod. Gounod qui termine la version définitive de son opéra en 1869, et c'est à l'acte 3 qu'on peut entendre ce fameux air. Marguerite vient de trouver les bijoux laissés par elle par le sinistre complice de Faust, Méphistophélès, le diable. Elle s'admire avec ses bijoux. « Je ris de me voir si belle en ce miroir. Est-ce toi, Marguerite ? Non, ce n'est plus toi, c'est la fille d'un roi. S'il était ici, il me trouverait belle comme une demoiselle. » Pourquoi est-ce qu'Hergé retient cet air-là ? L'opéra de Gounod a eu un énorme succès, c'est un tube. Au cours des années 1860, les opéras du monde entier le mettent à l'affiche et c'est l'œuvre choisie pour l'ouverture du Metropolitan Opera de New York en 1883. Difficile d'avoir les chiffres exacts, mais aujourd'hui encore, c'est l'un des opéras français les plus connus dans le monde avec Carmen. Il a à son tour été repris par les artistes comme Ravel ou Tchekhov. Avec un tel succès, il a aussi été parodié. Bref, c'est l'opéra par excellence au début du XXe siècle, une référence que le public d'Hergé peut comprendre. Et quand, dans Coq en stock, le méchant Rastapopoulos participe au bal costumé déguisé en Méphistophélès, c'est tout à fait adapté. En revanche, confier le rôle de Marguerite, une jeune fille, à une soprano dans la force de l'âge comme la Castafiore, eh bien là, il y a une espèce de dissonance, une cocasserie que les lecteurs de l'époque ou leurs parents n'auront pas manqué de relever. Cette ère des bijoux, c'est la référence au classique la plus importante dans l'œuvre d'Hergé. Mais même s'il n'aime pas l'opéra, il y en a d'autres. Sans doute faut-il y voir l'influence de son collaborateur Edgar P. Jacobs, le père de Black et Mortimer. Il avait en effet sérieusement envisagé une carrière de baryton. Chaque air chanté par les personnages dans les aventures de Tintin fait référence à une véritable œuvre. C'est par exemple le gardien de musée qui chante l'air du toréador de Carmen dans l'oreille cassée. « Prends garde, un œil noir te regarde sous l'œil d'une statue d'ébène ». Un autre opéra a lui inspiré un album entier et sa connaissance peut même en spoiler la fin, la révéler. C'est celui-ci. La Pivoleuse de Rossini, créée en 1817. L'histoire d'une servante condamnée à mort parce qu'elle est soupçonnée d'avoir volé des couverts en argent. In extremis, on découvre la véritable coupable, une pie attirée par les objets brillants. Cet argument, ça vous rappelle peut-être quelque chose.
Permettez-moi de vous offrir ce modeste cadeau en souvenir de notre première rencontre.
Merci beaucoup, madame. Oh, le Faust de Gounod.
Eh oui, le fameux air des bijoux. Oh, ciel, mes bijoux!
Ici, madame, c'est moi qui ai la mallette.
Oh, quel soulagement, je respire à nouveau. Oh, mes chers bijoux, je les aime tant que deviendrai-je sans eux. Ils sont irremplaçables, celui-ci tout particulièrement. C'est mon préféré. Il m'a été offert par le Maharaja de Gopal. Une émeraude d'une grande pureté. Sa valeur est inestimable.
Ciel, mes bijoux, les bijoux de la Castafiore. La chanteuse envahit Moulinsart avec Irma, sa femme de chambre, et son pianiste Wagner. Lorsque l'émeraude de la diva disparaît, tout semble accuser les tziganes qui se sont installés près de Moulinsart. Mais c'est en réalité un oiseau qui a fait le coup. Le rossignol milanais gagne encore de l'importance dans cet album puisque son nom apparaît dans le titre, un honneur rare partagé avec Tournesol, l'affaire Tournesol, auquel n'a pas eu le droit le capitaine Haddock qui lui n'apparaît dans aucun titre. Les bijoux de la Castafiore, c'est un épisode à part. Hergé était fatigué des récits d'aventures traditionnels comme il avait pu en mettre en scène. Après la Lune, après le Tibet, tout le monde se demandait pour quelle destination exotique allait repartir le reporter. Hergé conçoit un épisode à contre-pied dans lequel tout se passe à Moulinsart, sans méchants, sans armes à feu, sans enjeux géopolitiques importants. Je voulais susciter l'intérêt du lecteur pour des choses qui n'en valaient pas la peine, du moins aux yeux d'un amateur d'aventures palpitantes, dira-t-il à Numa Sadoul. La Castafiore y est plus exaspérante que jamais, mais aussi extrêmement amicale envers Tintin et le capitaine Haddock. Très attentionné pour celui qui a la jambe dans le plâtre et qui deviendra, le temps d'un article de Paris Flash, le fiancé de la diva. En réalité, et comme tous les personnages principaux, la Castafiore est célibataire. Peut-être parce qu'elle a voulu rester indépendante pour se consacrer à son art. Et voilà qui nous amène à un point polémique pour conclure. La Castafiore, c'est la seule femme à jouer un rôle de premier plan dans les aventures très masculines de Tintin. Impossible de dresser son portrait sans s'arrêter sur les accusations de misogynie à l'encontre d'Hergé. Il s'en défendait avec deux arguments. Le premier n'est sans doute pas très convaincant. À Numa Sadoul, il explique que la femme n'a rien à faire dans un monde comme celui de Tintin. C'est le règne de l'amitié virile. Le second, il l'expose sur le plateau d'Apostrophe en réponse à Bernard Pivot.
Alors, les femmes aussi, bon, évidemment, comme il a 15-16 ans...
Mais je trouve que c'est un univers où ça n'a pas sa place. Mmh.
Et non seulement, bon, Tintin ne s'intéresse pas aux femmes, on peut le comprendre, parce qu'il est d'un âge encore assez tendre.
Enfin, les autres pourraient.
Mais il n'y a pas de femmes dans vos...
Si, il y en a. Mais ce sont des caricatures, elles doivent être des caricatures.
Il y a la Castafiore.
C'est une caricature.
Il y a une concierge par-ci, oui, une dame qui téléphone longtemps, mais c'est tout.
Oui, je n'aime pas de caricaturer les femmes. Je n'aime pas. Si c'est une jolie femme et que je la caricature, c'est plus une jolie femme. Alors ça devient une Castafiore. Je ne suis pas à l'aise pour faire des dessins de femmes.
Hergé aimerait trop les femmes pour en faire des caricatures comme celles que l'on retrouve par exemple dans Astérix. Il faut toutefois remettre les choses dans leur contexte et les autres bandes dessinées de l'époque ne font pas tellement mieux. Tintin naît en 1929 dans le journal catholique d'un prêtre d'extrême droite. Sa mission, transmettre les valeurs du scoutisme, hors de question de parler de sexualité, et inutile de mettre en scène des personnages féminins positifs qui pourraient servir de modèle aux lectrices. La BD, ce n'est pas pour les filles. De toute façon, la s'en surveille, elle ne tolère aucun écart de conduite. Si Tintin revenait aujourd'hui, la situation serait peut-être différente dans Tintin et l'Alphard, qu'Hergé n'a pas pu achever avant sa mort en 1983. Apparaît le personnage de Martine, une jeune femme qui travaille dans une galerie d'art. Et d'ailleurs, 37 ans après la mort d'Hergé, le problème de la représentation des femmes dans la BD est toujours là et un collectif de créatrices de bandes dessinées contre le sexisme a été fondé en 2015 pour le combattre. Pour résumer cet épisode, la Castafiore, c'est un personnage inspiré par la vie personnelle d'Hergé, par son rapport à la musique et par les grandes divas de son époque. C'est devenu une figure incontournable de son univers et même de la pop culture, si iconique que son nom est devenu un nom commun pour désigner une mauvaise chanteuse. Et pourtant, la Castafiore chante bien. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur radioclassique.fr. Vous retrouverez sur l'article dédié à cet épisode les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité, ainsi que les biographies de Gounod, Rossini et Maria Callas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt.